France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux États qui tentent de reprendre la main sur leurs ressources, un souverainisme des sous-sols. Hier, nous parlions du Groenland que convoite Donald Trump et qui espère tirer parti de cet intérêt pour ses minerais. Aujourd'hui, le Mali, la junte militaire au pouvoir, tord le bras aux multinationales de l'or.
Trois employés de Resolute Mining, producteurs d'or, y compris son PDG Terry Houlihan, ont été arrêtés au Mali par des représentants du gouvernement. Monsieur Houlihan et ses deux autres employés étaient interrogés pour avoir fourni de fausses preuves et détourné des biens publics, des allégations qu'ils ont niées.
Le sous-sol malien a été largement abusé et exploité depuis la nuit des temps, pas toujours au profit des populations locales. Plus récemment, des pratiques observées dans l'exploitation de nos ressources minières par les multinationales ont révélé un partage inégal et même des actions frauduleuses ayant occasionné un manque à gagner considérable pour notre pays.
Ils viennent chez nous, ils exploitent nos ressources, ils ne payent pas nos impôts, ils vont payer les impôts là. C'est comme ça on dit l'éveil africain. Les actes que les Maliens sont en train de poser, les Burkinabés sont en train de poser, ce n'est pas maintenant que leurs enfants auront les retombées. C'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
Le 11 janvier dernier, à l'aube, deux hélicoptères de l'armée malienne se posaient sur les mines de Loulo-Gounkoto, le plus grand complexe de mines d'or du Mali, situé dans le sud et exploité par le géant canadien Barrick Gold. Les militaires, une vingtaine, venaient saisir une grande quantité d'or, on parle de 3 tonnes, en exécution d'une ordonnance prise quelques jours auparavant par les autorités maliennes qui assurent, depuis, avoir transféré les 240 millions d'euros que représente ce butin à la Banque malienne de solidarité, un établissement d'État. Barrick Gold a depuis suspendu sa production sur le site et continue à négocier avec les hommes du chef de la junte militaire au pouvoir, Assimi Goïta, car par le droit et par la force, le colonel semble tenir la promesse faite après son coup d'État, retrouver une souveraineté malienne, en l'occurrence grâce à un code minier beaucoup plus contraignant qu'avant, obliger les entreprises étrangères à mieux partager leurs bénéfices dans un pays qui est à la fois l'un des premiers producteurs d'or en Afrique et l'un des plus pauvres au monde. Mais le Mali a-t-il les moyens de maintenir le niveau de production d'or sans les multinationales? Et que compte faire la junte de cette rente minière? Qu'est-ce qui garantit qu'elle sera mieux redistribuée et ne servira pas des objectifs plus guerriers, par exemple? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Sédi Kaba.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES. Vous êtes rédacteur en chef du site Monde Afrique. Merci beaucoup d'être avec nous, ainsi qu'à vous Christophe Lebec. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Africa Intelligence, vous êtes responsable de la rubrique mine. Alors Christophe Beck, on aura l'occasion de rappeler au cours de l'émission que toutes les personnes que vous avez pu rencontrer, notamment lors de vos reportages et ou de vos entretiens pour vos enquêtes sur ces sujets des mines, en l'occurrence au Mali. Si on devait d'abord commencer par un instantané, entre guillemets, des déboires que connaissent ces entreprises minières en ce moment au Mali, lesquels faut-il citer? Où en sont en particulier la canadienne Barrick Gold ou l'australienne Resolute dans leurs négociations avec la junte malienne?
Alors, peut-être pour identifier un peu mieux les acteurs miniers, Barrick Gold, c'est le numéro 2 mondial de l'or, c'est un véritable géant. Resolute Mining est une compagnie australienne plus petite. Barrick, c'est probablement le premier producteur d'or sur le continent africain, présent non seulement au Mali, mais aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RD Congo, en Tanzanie. Et il est mené par une figure du secteur, qui est le Sud-Africain Mark Bristow, qui vient au Mali depuis plus de 20 ans et qui a été un pionnier du secteur aurifère, c'est lui qu'on considère comme l'auteur du décollage de la filière aurifère au Mali. Et donc aujourd'hui, il y a un conflit fiscal qui dure depuis plus de 6 mois, qui est extrêmement tendu avec les autorités. Et ce qu'on voit, c'est que les négociations patinent depuis plus de 6 mois. Barrick refuse l'application du code minier de 2023 au motif de la stabilité des contrats miniers, de la stabilité de ses revenus. Et là, on arrive à quelque chose qui est sans précédent dans un conflit fiscal. L'emprisonnement de cadres de la compagnie, les cadres maliens, un mandat d'arrêt contre Marc Bristow en décembre dernier.
Mandat d'arrêt d'ailleurs national. Or, vous dites qu'il est souvent en Afrique du Sud quand même. Donc, est-ce qu'en ce moment, il est sur le territoire malien ?
Marc Bristow, il se déplace énormément sur ces sites miniers. Donc normalement, moi je l'ai croisé en février dernier en Afrique du Sud. Il est tous les 3-4 mois sur tous ces sites miniers. Ça veut dire qu'il était habituellement au Mali tous les 3-4 mois. Donc là, il ne s'y est pas rendu depuis novembre dernier. Voilà.
Donc suite à ce conflit fiscal, cette grande bataille qui se livre entre la junte militaire et Barrick Gold, le groupe a suspendu sa production d'or sur le site de Loulo-Gounkoto, donc dans le sud-ouest du Mali. C'est un site que Barrick Gold détient à 80% et l'État malien à 20%. Plus de 8000 employés sont au chômage sans compter les sous-traitants. Le PDG de Barrick Gold, Marc Bristow, joue celui qui est ouvert au dialogue avec les autorités maliennes. Il répondait ici à Kitco News en janvier.
We are very focused on finding a solution to go forward. As you know,
nous sommes très concentrés sur la recherche d'une solution pour aller de l'avant. Comme vous le savez, le Mali est le fondement même de notre développement commercial. C'est là que nous avons commencé Randgold Resources. Au fil du temps, nous avons entretenu des relations très étroites avec le peuple malien et ses nombreux gouvernements. Le débat porte sur la compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, et de ce que nous défendons, à savoir un partage très clair et transparent des bénéfices. Et nous croyons en cela, ainsi qu'en la transparence. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous nous rapprochons d'un dialogue ouvert et franc, nous trouverons certainement une solution sur la voie à suivre pour le Mali.
Marc Bristow, encore optimiste en janvier, sauf que quelques semaines plus tard, la junte a refusé de signer le protocole d'accord en cours avec Barrick Gold, qui s'engageait à verser, d'après Jeune Afrique, 300 millions de dollars au Mali, a accepté d'appliquer les dispositions prévues par le code minier de 2023 de façon rétroactive. Qu'est-ce que Cédric Abba, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce bras de fer-là, du redressement fiscal qui a été le point de départ, en fait, cette bataille engagée aujourd'hui avec Barrick Gold et de la rhétorique employée par la junte militaire aujourd'hui pour dire...
Ce bras de fer traduit à lui seul les enjeux qu'il y a autour de l'or au Mali. Parce que le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique après l'Afrique du Sud, le Ghana, et le premier en Afrique de l'Ouest. Et les recettes liées à l'exploitation aurifère représente à peu près 25% des recettes fiscales, soit à peu près 7 à 10% du PIB. Donc pour les militaires maliens, il y a quand même un enjeu important à créer un nouveau type de rapport de force avec les sociétés minières, ce qui n'était pas le cas avant le coup d'État. Donc je crois que c'est autour de ça aussi que se joue cette affaire avec Barrick Gold, et c'est pour ça peut-être que les militaires ne veulent pas lâcher, étant entendu que au-delà même de la récupération l'entrée de devises et d'argent que ça peut faire, il y a aussi tout l'enjeu souverainiste qui est lié au contexte, le fait que on voudrait montrer qu'on a repris en main la souveraineté des ressources minières, et la souveraineté nationale, la nouvelle souveraineté, en tout cas le nouveau type de souveraineté que défendent les militaires, passe aussi par leur pouvoir sur les secteurs miniers, à commencer par l'or. D'ailleurs, ils ont créé une société, la SOREM, qui est une nouvelle société, la société de ressources et d'exploitation minérale, qui devait leur permettre, parce que effectivement, quand on regarde un peu, il y a quand même certaines situations qui ont pu interpeller. Des endroits où l'État n'a que 20% de participation dans des mines, et le secteur étranger à 80% de participation. Donc je crois qu'il y a tout ça derrière, et puis maintenant, la surenchère aussi vise à gagner le maximum dans la négociation. À mon avis, tout finira par se négocier, mais le militaire cherche à créer un rapport de force qui leur permet d'avoir le maximum d'argent.
Parce que qu'est-ce que permet le nouveau code minier, Christophe Lebec? Vous disiez, Sédi Kaba, que très longtemps, l'État malien n'avait que 20% de participation dans des entreprises ou des sites miniers. Le nouveau code minier stipule qu'il peut prendre désormais jusqu'à 30% de part dans les mines. C'est pas non plus la majorité. Quoi d'autre, Christophe Lebec? Qu'est-ce qui gêne tant les entreprises dans leurs intérêts dans ce texte qui a été promulgué en 2023?
Ce qui gêne les miniers, c'est la remise en cause de conventions qu'ils pensaient inaltérables au temps, sachant que Lolo Gounkoto, on parle de plus de 25 ans d'exploitation. C'est deux mines, Lolo et Gounkoto, qui ont été réunies avec un complexe industriel. Sachant qu'il y a la dimension personnelle de ce conflit entre Barrick et l'État malien est importante.
Pourquoi? Parce qu'il y a un ancien de Barrick qui est aujourd'hui conseiller du ministre des Finances malien, c'est ça?
Alors, deux choses. Il y a deux anciens salariés de Barrick qui ont été licenciés par Barrick et qui ont rejoint un cabinet d'audit qui a été l'auteur donc de cet audit des mines demandé par la junte que Marc Bristow accuse de mener à un combat personnel compte tenu de leur licenciement. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a la personnalité de Marc Bristow qui est connu sur tout le continent africain comme quelqu'un disant parfois de manière rugueuse ses vérités aux dirigeants politiques africains, qui arpente le continent depuis plus de 25 ans, qui est patron du numéro 2 mondial et qui n'hésite pas à aller lui aussi dans le rapport de force. Par le passé, en RD Congo, il a mené la fronde des miniers contre un nouveau code minier en RD Congo face à Joseph Kabila. C'est le seul qui a eu osé dire sa colère de manière peu diplomatique au président Joseph Kabila à l'époque. Et au Mali, faut pas oublier que c'est pas la première fois que Barrick est en conflit, y compris sous l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, où il y a eu des conflits à répétition, des mises en prison peut-être de 3 jours seulement par rapport à l'emprisonnement là qui dure depuis longtemps. Donc c'est pas la première fois, il est habitué à ça, il est habitué au rapport de force, et ça fait depuis plus de 25 ans qu'il est au Mali. Voilà. Après, est-ce qu'aujourd'hui ce discours est adapté par rapport à ce mouvement souverainisme en Afrique? Je ne sais pas.
Je crois aussi qu'il est important, lorsqu'on regarde le code minier, le nouveau que j'ai parcouru, il y a la dimension régime fiscal. Le régime fiscal a été modifié. Il est beaucoup moins favorable aux entreprises minières, beaucoup plus favorable à l'État, ce qui peut se comprendre.
Alors, par exemple, elles sont plus imposées qu'avant?
Oui, il y a la possibilité, par exemple, à l'article 134, où on dit que l'État se réserve le droit de percevoir la TVA, la TAV, en nature. Donc, au lieu de que ce soit des paiements qui sont, l'État peut prendre des quantités d'or à la place du cash qu'on devait fournir. Ça, c'est une des dispositions. Le régime fiscal, il y a beaucoup de choses qui sont prévues et par le passé au Mali, dans les pays de la sous-région, au Sahel. Les entreprises fiscales, les entreprises minières ont pu bénéficier de certaines facilités, des exonérations qui n'étaient pas même justifiées du point de vue du Fonds monétaire international. Certaines facilités au niveau du rapatriement des bénéfices, etc. Il y a beaucoup de facilités qui ont pu être les leurs et qui changent aujourd'hui. C'est clair que pour eux, c'est un changement de culture, c'est un changement de pratique. Et cette évolution-là, peut-être qu'ils ne s'y sont pas préparés, peut leur paraître brutale de temps en temps, et ça crée ce type de conflit entre l'État et les compagnies minières.
Donc ce nouveau code minier, il a changé le régime fiscal avec une hausse des taxes, il a permis à l'État de prendre jusqu'à 30% de part dans les mines, il oblige les entreprises à verser leurs bénéfices sur des comptes bancaires au Mali aussi, et les entreprises locales doivent systématiquement être associées. Est-ce que, Christophe Lebec, certaines de ces multinationales sont déjà parties, ont déjà plié bagage depuis la promulgation de ce code minier?
À ma connaissance, non, pas de groupe minier important. D'ailleurs, il faut noter que d'autres groupes miniers dans le pays ont accepté, sans doute en rechignant un peu, mais ils ont accepté d'appliquer le code minier.
D'accord. De façon rétroactive. Alors.
Notamment Allied Gold, qui est une autre compagnie canadienne, B2Gold, une autre compagnie canadienne, et Resolute Mining, à la suite de la libération et de l'accord qu'ils ont noué en novembre dernier.
Et qui a payé 160 millions de dollars pour régler le litige.
Alors, je ne sais pas s'ils ont payé 160, ils ont payé 80
oui, voilà,
sur la libération.
On
ne sait pas trop s'ils ont payé les 80 restants, hein, ce qui reste une somme très importante. Donc, il y a des groupes miniers qui acceptent de temporiser, de coopérer, sachant que le Mali, contrairement au Burkina, est un pays où les mines sont en dehors des zones de conflits armés. Ce qui est très important par rapport au Burkina, la situation du Burkina sur le plan de la sécurité est beaucoup plus compliqué puisqu'on a des mines par exemple la mine d'Essakane d'Ayam Gold, elle est dans l'extrême nord-est du Burkina Faso, pas loin du Niger, qui est un coin assez dangereux compte tenu de l'activité des groupes armés, ce qui n'est pas le cas du tout de Louloungoukoto qui est pas loin de la frontière avec le Sénégal, ouais. Ou d'autres mines qui sont pas loin de la frontière avec la Guinée. Voilà.
Donc vous disiez que des multinationales pour l'instant ne sont pas parties, néanmoins on dit que certaines sont très inquiètes qu'ils devaient ouvrir des mines cette année, d'autres auraient finalement choisi d'investir en Côte d'Ivoire. Sédhi Kaba, d'ailleurs, est-ce qu'on parle là seulement des multinationales de l'or ou de toutes celles qui opèrent dans l'industrie extractiviste au Mali, c'est aussi bauxite, fer, enfin il y a le lithium de plus en plus.
Oui, le rapport de force concerne la volonté d'instaurer un nouveau rapport de force avec les multinationales concerne tout le secteur minier. Il n'y a pas que l'or, mais l'or est la principale ressource minière, ressource d'exportation. 75 à 80% des exportations du Mali portent sur l'or. Quand on ajoute le coton, on monte même à 90% des exportations du Mali. Ça représente des enjeux importants, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, à mon avis, qui est important de rappeler que le Mali, en raison de sa situation politique, ne bénéficie plus d'aides budgétaires qui sont versées par l'aide budgétaire ni bilatérale ni multilatérale, parce que les bailleurs de fonds conditionnent cette aide bilatérale au retour du régime constitutionnel, au retour des civils au pouvoir. Donc dans ce contexte...
Ça représente quel manque à gagner à peu près?
Ah oui, c'est absolument important. Quand on prend d'autres pays de la sous-région, l'aide extérieure, la contribution au budget de l'État représente 40%. Du budget, la contribution extérieure. Au Mali aussi, ça doit être dans la proportion de 30 à 40% de la contribution du secteur extérieur. Donc, dans ces enjeux-là, les militaires sont sommés de mobiliser des ressources intérieures et un des leviers, puisque la pression fiscale est très faible, le paiement d'impôts sont autour de 17-20%, comme dans le reste de l'UMOA. Il faut chercher là où d'autres leviers où on peut trouver de l'argent. Et parmi ces leviers-là, il y a justement ce nouveau rapport de force avec les sociétés minières, y compris les sociétés du secteur aurifère.
Christophe Lebec.
Je voulais compléter ce que je disais tout à l'heure sur, les compagnies minières qui exploitaient déjà de l'or ne sont pas parties. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'elles n'investissent plus dans l'exploration. Et on sait que le secteur minier, si on n'investit pas dans l'exploration, c'est-à-dire la recherche de nouveaux gisements d'or, on ne prépare pas l'avenir. Et donc ça veut dire que la production future d'or du Mali sera plus faible. J'en ai pas discuté spécifiquement sur le Mali avec Marc Bristow, mais j'ai un gros doute sur l'investissement dans l'exploration minière de Barrick au Mali qui, en tant que grande compagnie, est sans doute plus efficace que les plus petites. Quant à ceux qui voudraient faire de l'exploration, ils ne viennent pas. Voilà, et beaucoup de pays africains, notamment l'Afrique du Sud, qui était un très grand, qui avait deux fois plus de production d'or il y a 20 ans. Aujourd'hui, les compagnies minières n'investissent plus dans l'exploration aurifère en Afrique du Sud et sa production a complètement dégringolé.
Quel est le prix de l'or en ce moment sur les marchés?
Il est astronomique, il est à 2 900 $ l'once, sachant qu'au début de l'année, il était autour de 2 650 $ l'once. Et si on regarde sur le temps très long, il était autour de 1 800 $ il y a 7 ou 8 ans.
Alors, l'or, pour l'instant, rapporte beaucoup plus d'argent, pourrait rapporter beaucoup plus de recettes fiscales à l'État malien qui mise davantage sur l'or que sur le coton pour son avenir, manifestement, même si je me souviens un passage dans Les raisins de la colère de Steinbeck où ceux qui élèvent, entre guillemets, qui ramassent le coton disent qu'ils espèrent qu'une guerre va éclater parce qu'avec la guerre, on fait des uniformes et aussi des explosifs avec le coton. C'est un passage très dur et très cynique de ce roman. Néanmoins, Sedi Kaba, on dit, vous le dites, la junte a besoin de recettes, mais pourquoi faire au juste? Parce que certes, toutes ces mesures servent un discours auprès de la population malienne, il faut affaiblir les multinationales, reprendre le contrôle, affirmer la souveraineté d'un pays qui s'est longtemps fait dicter ce qu'il devait faire. L'argent des mines doit profiter aux Maliens d'abord. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, mais quels usages sont faits des revenus de ces mines et là de l'argent qui a été saisi ou obtenu de ces entreprises?
Non, absolument, la question est absolument pertinente et il faut, à mon avis, lever le doute en disant que je ne suis pas sûr que la volonté du pouvoir malien soit de chasser les compagnies minières, mais d'instaurer un nouveau rapport de force. Parce que si les compagnies minières partent, l'exploitation de l'or ne va pas s'arrêter. Il y a une exploitation artisanale et clandestine qui représente à peu près 10% de la production. On dit qu'entre 10 et 15 tonnes d'or sort chaque année du Mali de façon clandestine et le gouvernement en a conscience. Maintenant, les recettes, compte tenu du défi, d'abord, c'est vrai que il y a le défi sécuritaire. Le Mali consacre actuellement 25 à 27% de ses recettes budgétaires aux dépenses de sécurité, aux dépenses de défense et de sécurité. Mais il y a d'autres défis importants, notamment qui expliquent même le terrorisme. Le Mali, par exemple, c'est chaque année 230 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'ont pas du travail. Et l'État ne peut pas les recruter tous. Il faut créer un secteur financier, un secteur où ils doivent être créés. Et parce que l'État ne peut pas employer ces jeunes-là, certains sont recrutés par les groupes djihadistes. Donc pour le pays, c'est important d'avoir suffisamment de ressources pour offrir des perspectives à sa jeunesse, pour faire de l'investissement, par exemple dans les infrastructures. Il y a un déficit d'infrastructures, il y a la scolarisation. Le Mali, c'est à peu près 3% de croissance démographique chaque année. La population double presque chaque 20 ans au Mali. Et tout ça, ce sont des défis importants pour lesquels le pouvoir doit, à mon avis, mobiliser des ressources. Maintenant, il y a sans doute tout ce qui est volet transparence. Là aussi, le gouvernement a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption parce que le secteur minier est un des secteurs où il y a une grande opacité. Le Mali, d'ailleurs, à un moment, a été mis sous le contrôle du GAFI, le groupe d'action financière, à cause justement aussi de l'absence de traçabilité de certaines exportations, dont celle de l'or.
Donc pour l'instant, on ne peut que se perdre en conjecture si on essaye de savoir exactement où cet argent aujourd'hui passe, comment il circule, ce que deviennent ces flux de devises qui entrent au Mali avec l'exportation de l'or. Et là, tout cet argent qui a été saisi par la junte auprès des exploitations aurifères. Alors, là-dessus, Christophe Lebec, quand Sedi Kaba rappelle que les jeunes maliens ont besoin de travail, qu'il faut aussi comme créer un secteur malien dans lequel on pourrait proposer de l'emploi, en quoi est-ce que aujourd'hui l'exploitation aurifère pourrait être ce débouché-là? Est-ce que les Maliens ont été formés au fur et à mesure depuis des années que ces entreprises étrangères travaillent au Mali? Est-ce que les savoir-faire ont été transmis, les technologies acquises par les Maliens dans le cadre d'une future nationalisation, puisque c'est ce qui semble être un des objectifs
finaux. En termes de création d'emplois, peut-être qu'il faut quand même rappeler déjà que le secteur minier industriel est beaucoup moins pourvoyeur d'emplois que par exemple le coton ou même que l'orpaillage, donc les mines artisanales. Donc, les miniers et en particulier Barrick ont formé des générations de cadres maliens. D'ailleurs, le patron de Barrick en Tanzanie est un malien. Le patron Afrique de l'Ouest est un malien. Il insiste beaucoup et je pense que c'est vrai parce que pour lui, c'est aussi une manière de résister aux aléas politiques, d'avoir des cadres maliens. Il les envoie, un certain nombre de ces cadres, il les a envoyés dans les universités sud-africaines ou américaines, dans les écoles des mines, les écoles de management. Donc oui, il y a eu un effort de formation. Après, ça reste à l'échelle du secteur minier industriel qui, en matière d'emploi, reste faible. Et si on compare le secteur minier formel, donc tenu par les grandes multinationales canadiennes, australiennes, et et informel, il n'y a pas photo. Il y a beaucoup plus de Maliens. Et malheureusement, parce que ça a des conséquences majeures sur leur vie, notamment en matière de santé et sur l'environnement, qu'il y a beaucoup plus de Maliens qui travaillent dans l'orpaillage que dans les mines industrielles.
Mais avec des emplois plutôt moins qualifiés, souvent moins bien payés, sauf les quelques cadres que vous avez cités tout à l'heure, qui restent peut-être des exceptions. Est-ce qu'ils sont d'ailleurs toujours en prison? Enfin, certains d'entre eux avaient été placés en garde à vue, notamment lors d'un déplacement de l'équipe de Resolute qui arrive dans la capitale malienne en pensant discuter avec la junte, renégocier autour du code minier, etc. et qui en fait se sont fait arrêter en arrivant. Il y avait des cadres maliens dans l'équipe. Est-ce que vous savez s'ils sont toujours en prison? Je ne sais pas si cette information-là circule d'ailleurs.
À ma connaissance, ils sont toujours en prison, mais j'ai pas vu de communiqué de libération, sachant que ça fait partie de la négociation entre Barrick et le gouvernement.
Sédi Kaba, ce discours de la junte malienne sur se réapproprier les sous-sols, se réapproprier les ressources minières, auprès de qui est-ce qu'il plaît? Auprès de qui est-ce qu'il marche? Quelle référence aussi cela mobilise au Mali? Je ne veux pas vous souffler le mot, c'est vous qui nous l'avez dit, mais Modibo Keïta notamment, qui avait nationalisé les mines dans les années 60, juste après l'indépendance. Est-ce qu'il s'en réclame d'une certaine façon, le chef de la junte?
Oui, absolument. Il y a tout un narratif qui est construit aujourd'hui sur la reprise de la souveraineté sur les mines. Et la reprise de la souveraineté de façon générale, puisque il y a la dimension politique avec les renvois des forces étrangères, avec le renvoi de la MINUSMA, donc le rapprochement avec les deux autres pays pour créer une alliance souverainiste qui est l'alliance du Sahel. Il y a aussi, justement, dans l'opinion malienne, particulièrement auprès de la jeunesse, le discours souverainiste sur la reprise en main des mines est un discours porteur pour la junte. Ça permet de mobiliser des gens, c'est un discours qui est porteur et qui s'inscrit un peu dans une dynamique aujourd'hui souverainiste qui renvoie à la belle époque de Modibo. On dit le Grand Mali a été gaspillé par les politiciens amateurs qui sont venus après la révolution de 1991 où Moussa Traoré a été chassé par la population, puisque au Mali la démocratie a quand même été acquise par la rue. Il y a eu une centaine de personnes qui ont été triées par les militaires et ça a conduit au coup d'état de Amadou Toumani Touré en 91. Donc, pour les Maliens, il y a ce retour du Grand Mali, parce que vous savez, le Mali a quand même une histoire glorieuse avec des empires, l'empire Sundiata Keïta, l'empire du Gao, etc. Tout ça, les gens ont l'impression qu'avec ce souverainisme, on retrouve le Grand Mali. Et pour les militaires, c'est une façon aussi de se construire une légitimité auprès de la population. À défaut d'avoir la légitimité dans les urnes, le fait qu'ils tiennent ce discours fait qu'ils ont une certaine popularité, c'est bien accueilli, surtout quand les gens disent que l'argent a été récupéré auprès des multinationales qui nous ont toujours... D'ailleurs, il y a une formule qui dit « il faut que l'or du Mali brille pour les Maliens ». Parce que jusqu'à présent, ils considèrent que l'or du Mali ne brillait pas pour les Maliens, il brillait pour les multinationales et pour les partenaires extérieurs. Avec ce discours souverainiste, l'or du Mali s'est mis à briller pour les Maliens. Et ça renvoie à l'époque glorieuse de Modibo Keïta que vous avez souligné. Parce que au-delà de l'indépendance, tout le monde se souvient que Modibo était un panafricaniste et qui avait fait venir à l'époque l'ensemble des cadres africains dans le cadre de la solidarité africaine envers le Mali. Des Nigériens, des Centrafricains sont partis travailler au Mali, sans compter Myriam Makeba qui a été un des soutiens du régime de cette époque-là.
Donc réaffirmer une souveraineté malienne. Or, on sait par ailleurs que cette junte militaire qui s'est départie de certains réseaux d'alliances et en particulier celui qui avait noué ses prédécesseurs avec la France depuis très longtemps, pour se tourner vers d'autres partenaires. Je pense à la Russie, auprès de qui la junte reçoit du matériel militaire, des chars notamment. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Christophe Lebec, si les Russes, pour le dire de façon très générale, la Russie en tout cas, se positionne sur l'exploitation minière et si le Mali laisserait faire, puisque la junte ne cesse de parler de ce souverainisme malien? On avait eu une information à un moment en février 2024 que le groupe Wagner, donc qui n'est plus la Russie à proprement parler, avait pris le contrôle de la mine d'or d'Intahaka au Mali pour en exploiter les sous-sols. Est-ce qu'on sait si c'est vrai? Qu'est-ce qu'on a comme information?
Alors, sur la Russie, que les Russes s'intéressent à une manière d'être rétribués de leurs services sécuritaires, ça c'est évident, et que dans un pays où les mines d'or représentent la principale ressource qui s'y intéresse, ça c'est évident. Que Wagner et ses émanations modernes, Africa Corps, etc., soient capables d'exploiter des mines artisanales ou semi-industrielles, c'est possible. Qu'il puisse exploiter un gisement comme le gisement du complexe de Loulo-Gounkoto tenu par Barrick, c'est beaucoup moins sûr. Il faut savoir qu'on parle d'une véritable usine avec des produits chimiques, avec des cadres qu'on a mis longtemps à former. Serait-il prêt à travailler avec les Russes?
Une dimension environnementale aussi. Enfin, il y a des normes en matière de.
Il y a des normes très importantes. On utilise du pour leur paillage, on utilise du mercure. Pour les mines industrielles, on utilise du cyanure et de la soude caustique. Donc on est sur des produits extrêmement nocifs et dangereux pour les salariés. Donc on sait que Wagner a exploité des mines d'or au Soudan, mais c'était de la petite mine. Exploiter des grands complexes comme voilà. À certains moments, on a eu dans la presse des papiers disant que Wagner allait reprendre Loulo-Gounkoto. On en parlait ensuite à Barry qui disait c'est qu'une rumeur. Oui, il y a un intérêt des Russes. Oui, ils peuvent le faire sur les mines artisanales. Avec des Maliens capables ou d'autres nationalités. En revanche, sur des grands gisements, ça poserait question et je suis pas sûr qu'ils soient capables.
C'est dit. Non,
je suis absolument d'accord. Autant on a vu au Soudan ou en Centrafrique que les Russes s'intéressent à des mines. Autant au Mali, on n'a pas encore d'évidence que les Russes s'intéressent aux mines et que la rémunération c'est pas du troc. La sécurité contre les mines, c'est pas le cas au Mali. Les Russes peuvent sans doute être rétribués à partir des recettes qui se seront améliorées directement au trésor public, puisque visiblement le contrat c'est entre l'État et la Russie et l'argent est versé en liquide. Il n'y a pas de mine qui a été attribuée et je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un projet de mine, d'attribution des mines aux Russes, parce que ça créerait aussi un conflit avec une partie de la population. Parce qu'il y a au moins 350 petites mines artisanales au Mali qui sont exploitées par la population et l'État essaie de vendre d'autres souvent moins regardants parce que c'est quand même une soupape sociale. Le fait de permettre aux gars de gagner de l'argent alors qu'ils sont dans la pauvreté absolue, le fait de leur permettre de gagner cet argent-là permet quand même de réguler un peu la société.
Mais sur les grosses mines, les plus grandes du pays, exploitées toujours pour l'instant par des entreprises minières, même si des conflits sont en cours et parfois la production est littéralement gelée sur ces sites-là, la junte militaire au Mali accepte que Wagner ou Africa Corps, donc les hommes d'anciennement Wagner, organisation paramilitaire russe qui a été dissoute depuis la tentative de putsch, puis la mort d'Evgeny Prigozhin. Est-ce que la junte accepte que Wagner soit là, que des hommes soient déployés pour assurer la sécurité de mines maliennes?
Comme a rappelé Christophe, la chance du Mali, si c'est une en tout cas, c'est que les mines ne sont pas dans l'épicentre de la crise. Ils sont à l'ouest, dans la région de Kaï, dans la région de Sikasso. Kaï d'ailleurs produit environ 75% de la production aurifère. Et ce n'est pas une zone d'insécurité particulière parce que ce n'est pas loin du Sénégal, de Tambacounda et de Kédougou. Maintenant, il y a des forces et c'est absolument intéressant dans la lecture de la situation de voir qu'aucune mine n'a jamais été attaquée au Mali. Et il n'y a pas eu d'attaque contre les mines directement parce qu'il y a souvent des positions de l'armée qui sont non loin des mines, que ce soit autour de la forêt, que ce soit sur les chemins, sur les axes. Il y a eu des attaques contre les miniers, notamment les transports, les bus qui transportent des travailleurs pendant les périodes de rotation, de relève. Mais il n'y a jamais eu d'attaque contre les mines parce qu'il y a des positions de l'armée et il est possible qu'au niveau de certaines positions de l'armée, qu'il y ait la présence justement des forces de Wagner qui travaillent avec l'armée malienne dans non loin des positions, mais pas directement avec les miniers eux-mêmes pour assurer leur sécurité.
Donc auprès de ces mines qui ne sont pas, dites-vous, l'un et l'autre dans les régions les plus dangereuses aujourd'hui au Mali, ce pays qui est encore en proie aux violences et aux groupes armés, y compris djihadistes, le Front de Libération de la Zawad, les groupes séparatistes Touareg, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est le résultat d'une fusion de plusieurs groupes, dont en de sardines. Donc ces mines ne sont a priori pas mises en danger par ces groupes-là ou pas dans les mêmes régions. Maintenant, sur les rumeurs qui circulent, qui ont circulé beaucoup autour de la Russie intéressée par les mines, vous les avez tous les deux plutôt niés. En tout cas, on a peu d'informations là-dessus. On dit néanmoins que des permis de recherche ont été établis avec la Russie sur le lithium, que des décrets auraient été signés, que peut-être la Russie va s'intéresser au lithium malien. Là encore, c'est difficile de le savoir. Néanmoins, j'en profite pour vous poser une question sur l'après. C'est-à-dire que on dit de plus en plus que les rendements de l'or sont de moins en moins intéressants, y compris pour le Mali, que le gouvernement malien explique par la baisse des rendements de mines qui n'ont plus grand-chose à donner. Christophe Lebec, est-ce que les autorités maliennes ont pris conscience de la nécessité de sortir de cette quasi-monoproduction de l'or ?
Après, les pays ont le sous-sol qu'ils ont. Ils peuvent pas changer leur sous-sol. Donc, il se trouve que le Mali, ses principaux gisements sont d'or. Donc, qu'il puisse y avoir du lithium, c'est probable. Le lithium est assez réparti sur la terre. Il y en a à peu près partout. C'est pas non plus quelque chose de rare. Pour le principal problème, à mon avis, pour le gouvernement malien, c'est de susciter un engouement pour de l'exploration aurifère, parce que c'est relativement tardif que les mines industrielles sont venues au Mali, donc le sous-sol malien a encore des gisements d'or à donner au monde et à en tirer profit. Sauf que si personne vient explorer le sous-sol, on va pas les trouver. Et dans 10 ans, la production malienne sera très faible. Sachant qu'il a déjà commencé à baisser la production malienne. On en était à plus de 72 tonnes en 2022. On est autour d'une cinquantaine. Bon, les chiffres définitifs sont pas arrivés, mais aujourd'hui, donc ça fait 20 tonnes de moins, c'est beaucoup. Sachant que Loulo-Gounkoto, c'est 20 tonnes par an à peu près.
La mine qui est en ce moment.
Ce qui peut être intéressant dans le cas du Mali, de sortir effectivement, il y a un piège comme au Niger où le pays était compté beaucoup sur l'uranium. Au Mali, il y a un piège de compter uniquement sur l'or. Mais il y a une autre perspective, c'est que si jamais la paix revenait, parce que l'autre produit d'exportation du Mali, c'est le coton. Qui est important. Donc, il faut que le Mali retrouve la capacité de produire du coton à côté de la production aurifère. Or, dans l'état actuel, la production du coton a beaucoup baissé parce que le coton, à la différence de l'or, se trouve dans l'épicentre, dans le Sahel, qui est la partie la plus affectée du Mali par l'insécurité. Et beaucoup de gens, des cotonculteurs, n'arrivent pas à aller dans leurs champs. Donc, si jamais la situation de sécuritaire s'améliore comme il y a des hauts et des bas, si elle s'améliore en tout cas, ça peut permettre de reprendre la production du coton. Et la production du coton va compléter la production de l'or, va permettre au pays d'avoir des ressources.
Vous avez évoqué le Niger, Sedi Kaba. Le Niger, on en parlera juste après ce rappeur nigérien Barakina. Go, go, go. Mon ami, faut go, go, go. Y'a plus le temps de do, do, do. Never give up, il faut go, go, go. Go, go, go. Kasuba, kasoro, dama, yangi, daje, komo, tochi. Karkadamu, irkwe, noga, no. Kasuwanti, ye, wia, ba, abunda, zaka, ke, yeda. Karkadamu, irkwe, noga, no. Wata yo akwa wia gata sedo bunkunji Karkadamu, irkwa nukano Muroge mesa mayabamu abunda za mshadadi Karkadamu Talakane ake mbambanchi Shine ake ma wala kanchi Bay da dala bay da CD bay e ching hanchi Saat diyan shi za su rena shi Adama ya ke gayi anayi Ayo, yara ke yi manya suna bi Da kyau, kudi suke canza ladabi Wiya ta ke mai da malan kairi Aho Barakina, un rappeur nigérien et sa chanson Go 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 qui date de l'année dernière. Le Niger qui fait partie, comme le Mali, de l'Alliance des États du Sahel, laquelle comprend aussi le Burkina Faso. Cette alliance conclue en 2023 par ces trois États tenus par des juntes militaires et qui ont quitté la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Au Niger, c'est la production d'uranium dont la junte a pris le contrôle.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Autre état de la région dirigé par un militaire putschiste depuis le coup d'état de juillet 2023, le général Tiani. Le Niger affirme lui aussi sa volonté de reprendre le contrôle sur ses mines. L'année dernière, il suspendait la licence d'exploitation pour les gisements d'uranium du géant français Orano, ex-Areva. Bonjour Rémi Carayol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, membre du comité éditorial d'Afrique 21, média dans lequel vous avez participé à un dossier sur l'uranium nigérien et les relations franco-nigériennes. D'abord, comment et pourquoi le général Tiani a-t-il décidé en juin dernier de suspendre cette licence d'exploitation d'Orano sur le site d'Imouraren? Est-ce qu'il l'a décrété du jour au lendemain ou c'est la conclusion de plusieurs rebondissements ou d'âpres négociations avec cette filiale, avec Areva?
Alors sur Imouraren, c'est une longue histoire en fait, hein, qui remonte avant même l'arrivée au pouvoir des militaires à Niamey. Il faut savoir que Orano, Areva à l'époque, avait obtenu ce permis en 2009. C'était un gisement qui faisait rêver beaucoup de sociétés. Les Chinois étaient intéressés aussi pour obtenir un permis. Et donc, Areva l'avait obtenu de haute lutte, mais n'avait jamais commencé son exploitation, alors que l'exploitation devait débuter normalement en 2012. Plusieurs éléments, et notamment l'accident de Fukushima, avait retardé son exploitation, et ça traînait d'année en année. Et c'est vrai que les régimes successifs au Niger s'impatientait de cette passivité de la part d'Orano et le général Tiani, le pouvoir actuel, a décidé en juin dernier de retirer le permis à Orano. Il faut savoir que c'est un des gisements les plus importants d'uranium sur la planète. Ses réserves sont estimées à 2000 tonnes.
Oui. Alors Orano a porté l'affaire devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements qui n'a pas encore eu son arbitrage. Pourquoi cette démarche alors qu'Orano a dit à un moment qu'il voulait arrêter de toute façon de produire de l'uranium au Niger parce que justement la junte militaire lui coupait trop l'herbe sous le pied, l'empêchait d'exporter notamment. Donc pourquoi cette démarche et surtout qu'est-ce que c'est que ce Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dont on dit d'habitude que les miniers, les entreprises minières vraiment freine des quatre fers avant d'aller devant ce centre-là qui est, je crois, une branche de la Banque mondiale.
Alors, sur le CIRDI, peut-être que Christophe Lebec en saura plus que moi. Je ne suis pas un spécialiste de ces centres d'arbitrage. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a deux arbitrages en réalité en cours. Donc, il y a un arbitrage sur Imouraren, puisque donc les autorités nigériennes ont retiré le permis à Orano. Mais le deuxième arbitrage, qui est pendant devant le CIRDI depuis le mois de janvier, concerne l'autre mine détenue par Orano, plus précisément par la Somaïr, qui est une filiale d'Orano au Niger, la mine d'Arlit, qui est, elle, exploitée depuis des années, qui a été la première mine exploitée par Orano au Niger. Et il se trouve que là, Orano dispose toujours du permis, il n'a pas été dénoncé officiellement, mais Orano s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait plus exporter la production de cette mine, parce que la frontière a été fermée après le coup d'État, notamment avec le Bénin, or l'uranium transité par le Bénin, parce que il y avait des difficultés pour importer les intrants, l'acide notamment, qui sert à transformer l'uranium en yellow cake. Et donc, Orano, en octobre 2024, a annoncé sa volonté de suspendre la production puisqu'elle était incapable de l'exporter. Or, les autorités nigériennes, au sein de la Somaïr, puisque l'État du Niger dispose de 36% des parts de la Somaïr, ont décidé, elles, de continuer la production, ce qui a valu un nouveau conflit entre Orano et l'État du Niger, et ce qui a poussé Orano à se rendre, à mettre l'affaire devant donc le CIRDI.
Orano qui annonçait fin octobre la fermeture de sa filiale nigérienne Somaïr, donc comme vous le rappeliez, c'est Société des Mines de l'Aïr, je crois. Pour l'instant, Comment fait Orano pour avoir accès au moins au stock d'uranium qu'elle a déjà produit, le commercialiser, ce stock-là qu'elle a contribué à produire dans les mois qui viennent, est-ce que ça lui revient de droit? Comment ça se passe?
Alors c'est tout l'enjeu actuel, c'est-à-dire que non, Orano n'a pas accès à cette production, c'est la Somaïr qui dispose donc du stock, qui est estimé à un peu plus de 1300 tonnes, donc pour une valeur estimée à 250 millions d'euros. Et donc, pour l'instant, en gros, c'est l'État du Niger, pour dire simplement les choses, qui a la main sur ce stock. Mais Orano a fait comprendre que les acheteurs qui voudraient acquérir une partie de ce stock, ou ce stock en entier, seraient en situation d'irrégularité, et que Orano se réservait le droit de porter plainte pour d'éventuels acquéreurs. Donc, pour l'État du Niger, ça risque d'être compliqué, en l'état actuel des choses, de vendre ce stock, en tout cas, de le vendre à des États qui respectent, ou à des États ou à des firmes qui respecte ce genre de normes commerciales internationales.
Le général Tiani, qui dirige le Niger aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer quelle est son intention? Est-ce qu'il s'agit vraiment de mettre Orano à la porte du Niger ou est-ce que c'est une forme de chantage pour obtenir quelque chose, en tout cas une renégociation du contrat plus avantageuse pour les autorités nigériennes, remettre le rapport de force en faveur du Niger qui produit cet uranium?
Alors, toutes les hypothèses sont plausibles en réalité. Peut-être que Cédic a plus d'informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire entre Orano, Areva et avant la Kogema et l'État du Niger, on a toujours eu des bras de fer. En tout cas, régulièrement, il y a eu des bras de fer entre différents pouvoirs pour obtenir une revalorisation du prix de ce qu'on appelle le prix Niger, donc qui est le prix de l'uranium nigérien extrait par Orano. Parfois, c'était même pour obtenir des financements occulte, notamment des financements de campagne. Et donc, ça fait partie de l'histoire, on va dire, ce qu'on appelait, nous, l'histoire radioactive entre la France et le Niger. Après, quelles sont les intentions du général Tiani? C'est très difficile de le dire. Au début, on pouvait penser que c'était un moyen de renégocier ou de négocier, on va dire, des subventions ou des subventions cachées dans un contexte économique et financier très délicat pour le Niger depuis le coup d'État. Mais au vu de l'évolution des choses de ces derniers mois, on peut se demander effectivement si l'objectif n'est pas en réalité de chasser Orano, de chasser donc une firme française ô combien emblématique. On sait que les autorités nigériennes ont rompu militairement et diplomatiquement avec la France. On peut estimer que ça fait partie de son objectif, mais c'est encore aujourd'hui difficile à dire précisément ce qu'il en est.
Rémi Carayol, il y a quelques mois pour Afrique 21, vous aviez interrogé le militant Ali Idrissa qui vous disait à Areva, pour nous c'est la société qui nous spolie, qui pollue nos eaux souterraines, qui accapare nos ressources. Politiquement, est-ce que ce coup, entre guillemets, a apporté des soutiens au général Tiani? Est-ce que ça a créé une sorte de grand mouvement de soutien à cette junte militaire?
Alors en réalité, il me semble que la question des mines d'arlite détenues par Orano n'a pas forcément fait la une des journaux. Il y a eu d'autres éléments qui ont permis à la junte de gagner en popularité, notamment chasser l'armée française a été vraiment un marqueur important. Et en réalité, c'est plus au niveau de la frange assez minime, de la société civile qui, elle, était en pointe pour demander plus de transparence, notamment dans le secteur minier et notamment dans le secteur d'uranium, qui, elle, quelque part, non pas a applaudi, mais voit d'un bon œil le fait que les autorités nigériennes ne se laissent pas ou plus marcher sur les pieds par Orano ou par les autorités françaises, mais dans le reste de la population, il me semble, vu de loin, que les priorités sont ailleurs.
Tout ça s'inscrit dans une rhétorique plus large du retour de la souveraineté nigérienne. On se rappelle que l'ambassadeur français Sylvain Ité a quitté le pays il y a plus d'un an maintenant. Pendant et après le coup d'État militaire, il était resté cloîtré chez lui pendant plusieurs semaines. Il n'a pas, à ma connaissance, été remplacé. Il n'y a pas non plus de militaires français. Tous les militaires de l'ancienne force Barkhane sont partis. Les derniers avaient été rapatriés en décembre 2023. Donc ça s'inscrit aussi dans ce mouvement-là, cette histoire-là. Est-ce qu'Areva est néanmoins davantage détestée que d'autres entreprises étrangères qui travaillent au Niger, comme la compagnie chinoise CNPC qui opère sur le site pétrolier, cette fois d'Agadem à 1600 km à l'est de Niamey? Encore une fois, quand on parle de souveraineté nigérienne, est-ce que la junte militaire au pouvoir parle d'une souveraineté totale ou va se chercher quand même de nouveaux partenaires?
Alors, c'est certain que l'image d'Areva Orano au Niger est très dégradée. Au Niger, beaucoup de personnes sont persuadées que Orano, que la France, en réalité, exploite l'uranium de manière éhontée, et que ça ne rapporte aucune richesse à l'État du Niger. Il y a une part de vérité. D'abord, l'uranium nigérien a représenté une part très importante dans l'histoire nucléaire française, que ça soit sur le plan civil, mais aussi militaire. Et encore aujourd'hui, enfin, juste il y a encore quelques mois, l'uranium du Niger représentait une part non négligeable de la production d'électricité en France.
Même s'il est faux de dire que l'électricité française repose uniquement sur l'approvisionnement en uranium nigérien, comme on l'entend beaucoup au Niger.
C'est complètement faux, mais c'est une idée répandue au Niger et qui est considérée comme une certitude. Dans un pays, il faut le rappeler, où 20% de la population a accès à l'électricité. Donc ça suscite évidemment beaucoup de fantasmes et c'est incomparable avec les autres sociétés minières qui peuvent intervenir au Niger, et notamment la société chinoise qui exploite le pétrole. Alors, ça s'explique par le fait d'abord que l'exploitation du pétrole est beaucoup plus récente, puisque elle remonte à une dizaine d'années, et ça s'explique aussi par le fait que Orano, Areva, est une société intimement liée à l'État français, ça on le sait, au Niger, et outre l'exploitation de l'uranium, vient se greffer, en fait, sur cette image-là, toute la relation très ambiguë qui a été celle de la France et du Niger pendant des années, avec des coups d'État plus ou moins soutenus par la France, ou avec des régimes plus ou moins soutenus par la France, et qui fait que Areva Orano n'est pas seulement considéré comme une firme étrangère, mais c'est considéré comme un bras économique de l'ancienne puissance coloniale.
Merci beaucoup Rémi Carreyal. On peut lire toutes les enquêtes que vous avez menées sur ce sujet dans Afrique 21. Merci d'avoir été avec nous pour ce focus. Je voulais d'abord faire réagir Sedi Kaba. Vous êtes d'origine nigérienne. Vous connaissez bien aussi ce dossier-là. Peut-être un mot sur qui va s'occuper des mines d'uranium désormais si le Niger met dehors les groupes qui avaient des années d'expérience. Il faut se faire l'avocat du diable.
Oui, déjà, il y avait depuis un moment une diversification. Il n'y avait plus que les Français. Il y avait le Canadien Goviex qui est venu, qui a une petite mine. Et il y a aujourd'hui d'ailleurs encore une autre mine qui est exploitée par des Canadiens. Donc le Niger était déjà dans une démarche de diversification de son partenariat en matière d'uranium lorsque ce conflit, qui est lié, comme a si bien dit Rémi Carreyal, à la mauvaise relation entre la France et le Niger. C'est ça qui a empêché qu'il y ait des espaces de dialogue. Par exemple, lorsque le retrait du permis du Mouraren s'explique aussi par le fait que dans le code minier du Niger, à l'époque, il était prévu que si au bout de 5 ans, vous n'exploitez pas le permis, il tombe dans le domaine public. Mmh. Mais les autres régimes ont eu peur et les militaires qui sont venus aujourd'hui ont arraché et ont montré à la population en disant que nous, on fait autrement. Donc, ça fait partie aussi de la stratégie, justement, de séduction envers la population. La deuxième chose qui est peut-être importante, c'est que le conflit avec Alaa Soumaïr a aussi été attisé par le fait que Orano ici a débranché la Soumaïr.
Mais peut-être un tout petit mot, Christophe Lebec, vous vouliez.
Peut-être que oui, il y a une dimension éminemment symbolique dans ce conflit avec Orano du fait de son histoire franco-nigérienne. Je pense qu'aujourd'hui Orano se cherche un avenir en dehors du Niger et même en dehors de l'Afrique avec de nombreux projets en Asie centrale. Notamment, on a vu le président d'Orano en Ouzbékistan, en Mongolie. Sachant que leur plus grosse exploitation d'uranium est au Kazakhstan, donc ils se cherchent un avenir ailleurs. Mais il y a, en dehors d'Orano, finalement, il n'y a presque plus de boîtes françaises. Il y a Eramet, mais sinon, c'est complètement anglo-saxon comme monde. Donc il y a, voilà.
Et toutes les ONG, associations qui ont salué au Niger le départ d'Orano disent qu'elles veillent pour voir comment sera utilisée ensuite cette mine, l'exploitation qui en sera faite, les ressources qui en seront tirées. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce studio, Sedi Kaba et Christophe Lebec. Merci. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous nous emmenez en Ouganda ce matin, Catherine, en proie à une crise des déchets.
Le président Yoweri Museveni, qui dirige ce pays d'Afrique de l'Est d'une main de fer depuis 1986, veut installer des caméras de vidéosurveillance pour repérer et arrêter les Ougandais qui jettent des détritus dans la capitale Kampala. Il risquerait alors jusqu'à un an de prison et une amende. Mais pour le quotidien ougandais Daily Monitor, c'est bien insuffisant comparé au manque d'infrastructures pour traiter les déchets, au sous-investissement presque coupable pour la santé des humains et du bétail, ajoute The Daily Monitor, dans un Ouganda confronté à une urbanisation galopante. La crise des déchets est bien plus profonde, confirme la BBC, comme l'a tristement illustré le glissement de terrain cet été qui a fait au moins une trentaine de morts dans la décharge de Kitezi après des pluies torrentielles, rappelle le quotidien ougandais The New Vision. Située à la limite nord de la ville, cette décharge s'étend sur 15 hectares, l'équivalent d'une vingtaine de terrains de football, et sa puanteur se répand encore davantage, note la BBC. Des charognards survolent constamment cette montagne d'immondices. Et c'est là encore que des Ougandais tentent d'échapper à la pauvreté, raconte la BBC. Okuku Prince, un éboueur informel si l'on peut dire, âgé de 22 ans, gagne sa vie, comme d'autres, en lavant et en vendant tous les objets jetés qu'il trouve et qui ont encore de la valeur. Des sacs plastiques, des filets de pêche, des bouteilles, des bocaux en verre, des composants de vieux appareils électroniques, explique la BBC. Le jeune homme gagne moins de 3 euros par jour. Pas le choix, lui qui a dû abandonner ses études de droit. Le jeune Ougandais, traumatisé aussi par la mort de l'un de ses amis cet été dans le glissement de terrain. D'autres corps, dit-il, se trouvent encore sous les ordures.
Et au moins 700 maisons ou abris de fortune ont aussi été détruits dans la catastrophe.
Ou bien par les bulldozers qui tentaient de secourir les victimes, ajoute l'agence Bloomberg. Et un incendie s'est déclaré le mois dernier à Kitezi, rapporte le magazine ougandais The Independent. Et pourtant, toujours pas de structure de tri, de recyclage et d'incinération. La mairie de Kampala et le pouvoir central se renvoient la balle. Nous sillonnons les rues pour collecter du plastique, des cartons, explique à la BBC Abel Odeke de l'ONG Equal Aqua Uganda, qui lutte contre les inégalités en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Mais le problème persiste, dit-il. Il n'y a pas de tri ni de recyclage des ordures ménagères, du plastique ou du métal. Et c'est cela qu'il nous faut si l'on ne veut pas que les ordures soient jetées dans le lac Victoria. Si l'on veut que les habitants puissent boire une eau saine, les Ougandais doivent aussi être les acteurs de ce changement. Des centaines de personnes continuent de fouiller la décharge géante de Kitezi, raconte Bloomberg, même si elle a été officiellement fermée. Un nouveau site a lui été trouvé à 23 km du centre de Kampala, annonce le quotidien ougandais The New Vision. Les autorités promettent d'intégrer des technologies de pointe, d'offrir aussi des opportunités d'emploi pour la main-d'œuvre locale. Mais dans quelles conditions? Dans le nord de l'Ouganda, à près de 500 km de Kampala, une usine de tri et de recyclage des déchets permet à des Ougandais et à des Ougandaises d'échapper à la pauvreté, raconte le journal local The Daily Monitor. Mais ces personnes sont exposées à des substances chimiques nocives. La revue scientifique Nature alerte sur la concentration des particules fines jusqu'à 8 fois plus élevées que les valeurs moyennes annuelles recommandées par l'OMS, si bien que les chercheurs ont pu imputer un décès sur 5 à Kampala à la pollution de l'air.
Enfin, Catherine, la France s'active pour coordonner une réponse sur l'Ukraine et sur la sécurité européenne. Des responsables militaires de 30 pays de l'Union européenne et de l'OTAN se réunissent aujourd'hui à Paris.
Et si c'était l'occasion de redonner sa grandeur à l'Europe? Alors ce n'est pas la reprise du mot d'ordre trumpiste par l'extrême droite européenne, comme on a pu l'entendre le mois dernier à Madrid. Make Europe Great Again, c'est le titre d'un édito du Financial Times, qui estime que Donald Trump a donné le plus grand coup de pouce à l'intégration européenne depuis la fin de la guerre froide, en courtisant la Russie, en ébranlant la confiance dans l'OTAN, en menaçant aussi les 27 de taxes douanières. Tout cela a eu un effet galvanisant sur l'Union européenne, et c'est aussi l'avis du quotidien belge L'Écho et du Times au Royaume-Uni, alors que l'UE a donné son feu vert la semaine dernière à un plan de 800 milliards d'euros sur 4 ans pour renforcer la défense du continent et aider l'Ukraine. Il faut aussi répondre aux problèmes de dépendance en termes d'armement par rapport aux États-Unis, estiment en Suisse le quotidien Le Temps et le journal Blick. Près des 2/3 des armes importées par les Européens au cours des 5 dernières années ont été produites par les États-Unis. Des pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni achètent par exemple des avions furtifs américains F-35, et la radio-télévision suisse évoque plusieurs problèmes autour de cet appareil. Si le constructeur garantit la souveraineté en matière de données, Joseph Henrotin, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale en Belgique, lui, n'y croit pas.
Comme votre appareil est un aspirateur finalement à données, ce qu'il voit, ce qu'il entend, temps, etc. Tout cela, dès lors que tout est connecté, est susceptible évidemment de remonter vers les États-Unis. Alors, les États-Unis disent qu'il y a un pare-feu. Malgré tout, vous restez dépendant du bon vouloir de celui qui programme le système, et en l'occurrence, les États-Unis.
Et selon un analyste militaire britannique interrogé par la RTS en Suisse, l'une des raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis n'ont pas acheté de F-35, c'est par crainte d'un kill switch, une sorte de coupe-circuit qui permettrait aux États-Unis de clouer les avions au sol.
Merci beaucoup Catherine Dutu.